jeudi 30 septembre 2021, il est midi et vous écoutez le magazine de Canal Sud. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans le magazine de Canal Sud. Il est midi, on est ensemble pour environ 2 heures de magazine. Et aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on en a parlé dans le magazine de mardi, on va en reparler aujourd'hui, on va parler de la santé, on va donner la parole à différentes personnes aujourd'hui qui vont nous appeler au téléphone, des responsables syndicaux dans le secteur de la santé, des personnes engagées plus largement contre le flicage des soignants et en soutien aux personnes qui ont été suspendues de leur fonction suite à la décision du gouvernement d'obliger à l'obligation vaccinale en fait qui a été mise en place à partir d'août dernier. On en parlait donc déjà mardi puisque à l'échelle nationale c'est plus de 3000 soignants soignantes qui ont été suspendus. On parlait notamment de la région de Strasbourg où en fait des soignants ont déposé des recours auprès du tribunal administratif pour pouvoir rester en fonction, recours qui à Strasbourg en l'occurrence ont été rejetés. Il se trouve qu'à Toulouse aussi les luttes prennent forme, des luttes se montent pour défendre le droit des soignants comme des soignés à pouvoir exercer mais aussi bénéficier des soins en toute liberté. C'est ce dont on va parler aujourd'hui à travers deux sujets qui sont différents mais aussi liés. On aura d'abord au téléphone un responsable syndical du CHU de Sud Santé, Alain Motte, qui nous parlera d'un événement qui est survenu hier à l'Hôtel Dieu à Toulouse lors d'une réunion du CHSCT concernant justement les conditions de travail et d'exercice en temps de pandémie. Il nous parlera de l'intervention policière qui a suivi une action menée par notamment des citoyens qui sont venus exposer en fait les problématiques liées à tout ça. Et on aura donc au téléphone aussi Mathieu de Toulouse Antipas qui viendra nous raconter lui aussi comment il a vécu cette action hier soir. Et en deuxième partie d'émission, on aura au téléphone un responsable syndical de la CGT Santé cette fois-ci qui nous informe qu'ils ont eu écho d'un listing de la direction du CHU qui donne des informations sur le statut vaccinal, le statut sérologique des travailleurs, travailleuses de l'hôpital. Donc on en parlera un petit peu plus précisément au téléphone avec eux tout à l'heure. Mais pour commencer, on va faire un petit agenda de ce jeudi 30 septembre. Sachez que aujourd'hui à 18h30 se tient la réunion publique du DAL, DAL 31, le droit au logement, qui donc s'ouvre à toutes et à tous pour présenter un petit peu les activités de l'association. Elle aura lieu à la réquisition du 36 rue Rocklen, métro Jeanne d'Arc. Donc si vous êtes curieux, curieuse de connaître les activités, l'agenda de cette association à venir, rendez-vous au 36 rue Rocklen, métro Jeanne d'Arc, ce soir à 18h30. Agenda théâtre aussi, sachez que du 30 septembre ce soir au 2 octobre se jouera au théâtre Grenier un spectacle qui s'appelle Nani et puis un jour tu vis, spectacle théâtral savoureux et jubilatoire. Sur le plateau, une femme seule et une galerie de personnages qu'elle convoque pour dessiner son histoire sous nos yeux. Le théâtre, la danse et la musique tissent un chemin rêvé, vécu, imaginé. C'est à partir de ce soir jusqu'au 2 octobre au Théâtre Grenier à Toulouse. Et si vous avez envie d'écouter de la musique ce soir, sachez qu'il y aura un concert gratuit au Musée des Abattoirs à 18h30 avec Kobe Van Kovenberg qui jouera Anthony Braxton, solo expérimental. C'est de la musique expérimentale à déguster donc ce soir au Musée des Abattoirs. Rendez-vous sur internet si vous avez envie de vous faire une petite idée. Il y aura aussi un concert à prix libre à la Cavaroc à 21h avec Deadliners et Kamak qui joueront du coup dans la cave de la Cavaroc tout simplement à 21h au Taquin, concert de jazz avec le groupe Chijin, c'est 5 euros. On retrouvera par ailleurs au Bijou, quartier Saint-Pierre, à 21h le groupe Asile, tandis que la cave poésie accueillera du flamenco moderne à partir de 21h avec Visteme Despacio. Et si vous êtes plus Instagram, R&B, pop, Weshden, mince, j'ai oublié ce que c'était, c'est son titre si connu, ça y est, c'est la panique qui me prend. Weshden, vous la connaissez, vous n'avez pas pu passer à côté. Elle se produit ce soir au Bikini à partir de 19h et c'est 25 euros en pré-vente et 28 euros sur place. Voilà pour l'agenda d'aujourd'hui. On va faire une petite pause musicale et on se retrouve juste après avec Alain Motte qui nous parlera de ce qui s'est passé hier à l'Hôtel Dieu. C'est parti. De Canal Sud et nous sommes en compagnie d'Alain Motte. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans le magazine. Merci d'avoir envoyé un mail pour communiquer un peu sur ce qui s'est passé hier. Donc on en parlait un petit peu ce matin au téléphone avant le magazine. Peut-être revenir un petit peu sur les problématiques que connaissent les soignants, soignantes à Toulouse en ce moment qui sont des problématiques qui visaient peut-être à être soulevées lors de cette séance hier.
Oui, alors les problématiques sont pas forcément spécifiques à Toulouse, puisque c'est des problématiques qu'on rencontre partout aujourd'hui dans la santé, avec les problèmes liés à la pandémie et à la prise en charge de la pandémie par l'hôpital public, et deux, à la nouvelle loi du 5 août qui rajoute certains éléments supplémentaires quant à la vie des personnels de santé qui ne sont pas spécifiques d'ailleurs au CHU, etc. Voilà, donc c'est des problèmes qu'on retrouve partout. Et puis après, des problématiques spécifiques qu'on aurait pu soulever pendant l'instance, qui sont liées à la politique locale et à l'adaptation locale de la politique nationale, donc sur des remplacements ou sur des personnels, par exemple, qui ont été suspendus, qui veulent être réintégrés et à qui on répond « Ah ben oui, non mais désolé, on a supprimé votre poste », enfin des choses comme ça. Donc ça, qu'on comptait soulever pendant l'instance. Mais c'est des choses qui n'ont pas pu être discutées, comme on en a parlé, suite à la défection de notre direction.
Tout à fait. Est-ce que vous pouvez revenir rapidement sur cette séance de ce dont on parle, cette instance de CHSCT, j'ai du mal à le prononcer, pour qu'on situe un petit peu de quoi il s'agit.
Alors, le CHSCT, c'est une instance, donc c'est le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. C'est une instance représentative et légale qui est l'organisation et la réglementation est définie par le Code du travail, qui a malheureusement été attaqué, mais pas encore dans la fonction publique. Ce CHSCT, donc, il est régulier hein, tout au long de l'année, et là, c'était un CHSCT un peu extraordinaire, donc c'est-à-dire qu'il est rajouté en plus pour parler spécifiquement des problèmes liés à la pandémie de Covid et qui, on va dire, plutôt à ce qui s'est passé juillet, août, l'été, jusqu'à septembre, et puis l'adaptation, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la loi du 5 août, et donc à l'obligation vaccinale, et les problématiques liées à la suspension du personnel, au non-renouvellement. On sait qu'il y avait déjà des postes qui manquaient. On a pu voir, enfin vous l'avez peut-être pas vu, mais nous qui suivons l'actualité du CHU d'une manière intense, que la direction a publié sur son site Facebook ce qu'ils appellent un job dating, donc c'est une mise en publicité pour en fait tous les postes qui manquent. Il y avait 117 postes qui étaient mis à disposition, donc on voit bien qu'il y a des gros problèmes de personnel. Tout ça, on voulait en parler au CHSCT localement. Et ça n'a pas pu se faire parce que pendant le CHSCT, il y a des personnes de la société civile qui soutiennent les problématiques rencontrées par les soignants, mais qui ne sont pas que les problématiques liées au Covid d'ailleurs, c'est des gens qui soutiennent notre lutte syndicale contre la casse de l'hôpital public, contre la perte des lits. On sait que par exemple pendant cette campagne Covid, cette pandémie, il y a eu énormément de lits de réa qui ont été fermés, que malgré les promesses du gouvernement, ça a continué à fermer. Voilà, toutes ces problématiques-là voulaient être soulevées par ces personnes de la société civile, des soignés, on va dire.
Donc il y a eu un rassemblement devant l'Hôtel Dieu.
Ce rassemblement n'a pas eu lieu devant l'Hôtel Dieu, ces gens-là sont rentrés dans la séance. Et donc devant cette intrusion pas du tout violente hein, puisqu'ils étaient quand même que 12, ce qui est pas énorme parce qu'ils étaient pas tous à l'intérieur, mais bon, la direction a de suite levé la séance. Voilà, elle n'a pas cherché du tout à discuter ni avec les syndicats ni avec les personnes qui étaient là pour voir comment on pouvait leur laisser une petite place et puis continuer après sereinement, parce que nous on voulait tenir cette séance quand même hein, il y avait beaucoup de problématiques qui devaient être soulevées et qu'on voulait pointer du doigt. Donc de toute façon on reconvoquera un CHSCT, mais la direction de suite c'est parti quoi.
Et la question c'est de se demander aussi dans quelle mesure cet incident est un peu symptomatique de la manière dont est mené, on va dire, ce dialogue-là, puisque c'est, en l'occurrence, ces séances-là, elles sont censées créer de la communication entre les responsables de l'hôpital et les responsables syndicaux.
Oui, mais bon, on a quand même des instances qui se tiennent tant bien que mal, avec de grosses difficultés, mais on a quand même des instances qui se tiennent. Et puis ça nous permet de pointer du doigt, parce qu'il y a dans le CHSCT, il y a quand même un compte-rendu qui est fait, et ces compte-rendus servent de pièces juridiques si jamais il y a des gros problèmes ou des attaques par rapport à la direction. Donc c'est pas rien, c'est quelque chose que nous on veut vraiment tenir. Ils y sont obligés, s'ils pouvaient s'en passer. D'ailleurs, c'est ce qu'ils ont fait avec la réforme du code du travail dans le privé. Ils ont essayé de supprimer les CHSCT, et c'est ce qu'ils vont essayer de faire dans le public aussi, parce que c'est une instance, c'est peut-être la seule instance où on a vraiment, où on les gêne, quoi. Ils sont obligés de suivre un petit peu les préconisations qu'on. Donc c'est vrai que la direction a tendance à vite éluder, vite partir. Là, hier, il n'y avait aucune violence, il n'y avait aucune pression énorme. Enfin, je veux dire, c'est quand même des gens qui sont payés pour discuter, pour dialoguer avec des gens qui sont pas d'accord, et ils le font pas, quoi. Ils le font pas.
Oui, on en parlera tout à l'heure avec justement une des personnes qui était dans ce groupe, hein, qui sont rentrées à l'intérieur qui sont rentrés dans la séance. Et peut-être pour les auditrices, auditeurs qui justement ont envie de peut-être plus investir dans le soutien aux soignants, soignantes, est-ce qu'il y a des prochains rendez-vous, des lieux, des sites d'information sur lesquels on peut avoir plus d'infos?
Alors, c'est bien un petit peu le problème que je rencontre et qu'on rencontre. Moi, je suis donc personnel soignant, je suis élu du syndicat Sud Santé, Sud Santé Sociaux. Je suis personnellement pas vacciné, donc je suis suspendu de mon traitement, suspendu de mon travail sans traitement, donc je touche plus mon salaire. Et
il y en a beaucoup à Toulouse à qui c'est arrivé ça?
Il y en a d'autres à Toulouse. On est une quarantaine, cinquantaine sur le CHU. Mais ça, c'est les gens qui sont officiellement suspendus. Parce qu'il faut voir le nombre de personnes qui se sont mis en maladie avant, ouais, pour éviter la suspension, et qui sont en maladie, effectivement, sur cette problématique-là.
Il y a eu des démissions aussi.
Et c'est très important en France. Ça, c'est un problème qui touche la France. Mais ce qui est très complexe, en fait, c'est d'arriver à ce que les gens sortent du bois réellement, se mobilisent. Moi, je suis un militant, je suis habitué à me mobiliser, donc je suis habitué, je suis pas surpris par ce qui arrive. Je sais que le gouvernement est dans une démarche autoritaire, violente, et donc quand la loi est sortie, je savais très bien qu'ils allaient aller au bout et qu'ils allaient continuer. Donc je suis pas dans une position de sidération, d'apeurement, d'incompréhension. Je sais ce qui se passe. Voilà. Donc moi, j'ai l'habitude de mobiliser, je me mobilise. Après, j'essaye de créer un réseau avec tous ces gens qui sont en difficulté, mais qui sont pas des militants, qui n'ont pas l'habitude, qui ont juste une opinion sur le vaccin, qui n'ont pas trop confiance, etc., etc. Et donc qui sont pas habitués à se mobiliser, et c'est très difficile de les mettre en réseau. Par exemple, ils sont très actifs sur les réseaux sociaux, sur Telegram, il y a des listes, ils sont 280 sur cette liste. Ils discutent entre eux, mais en fait, ils apparaissent pas, ils font rien, ils voient rien. D'autant plus qu'ils attendaient énormément des recours judiciaires, hein, par rapport à la loi, et que nous, on savait très bien, et on l'avait dit, que la loi était ficelée de telle manière que les recours judiciaires allaient être très très compliqués, très très compliqués.
Justement, c'est la question que je pose, est-ce qu'à Toulouse, il y a des recours
il y a des choses qui sont en route, mais vous savez comment fonctionne la justice en France, hein, c'est soit vous êtes en référé et vous avez une réponse très rapide, et aujourd'hui, tous les référés en France ont été déboutés. Donc c'est pas compliqué, hein. Tous ceux qui faisaient de la pub sur moi je vais, les avocats, pour l'instant, il n'y a rien qui a avancé, hein. Donc certains avocats, d'ailleurs, on peut se demander s'ils sont pas un petit peu s'ils ont pas été appâtés par l'appât du gain, quand même. Enfin, voilà. Et le reste, vous aurez les résultats dans 2 ans. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, de toute façon, même si vous avez raison sur le fond, vous aurez le résultat du tribunal dans 2 ans. Donc pour l'instant, vous êtes suspendu sans salaire.
C'est vrai que du coup, on peut se dire que la direction du CHU profite de cette temporalité différente de la justice, en sachant très bien que...
C'est pas, c'est, C'est pas que la direction du CHU, hein, c'est le gouvernement en général.
C'est le gouvernement en général, oui.
Parce que la direction du CHU, ce n'est qu'un outil zélé d'application des consignes de l'ARS, hein, parce que c'est quand même l'ARS qui dirige toute cette toute cette application de la loi, mais violente. Parce que il y a des endroits, par exemple, où un EHPAD où les personnels étaient en nombre insuffisant, le directeur a dit... Bon, finalement, je vais être obligé. Donc, je vais réquisitionner les personnels suspendus pour qu'ils travaillent quand même, parce que je ne peux pas faire fonctionner mon EHPAD. L'ARS a tapé sur la table en disant c'est hors de question. Les personnels restent dehors. Les patients qui sont dans l'EHPAD vont être déplacés jusqu'à ce que le nombre soit suffisant pour pouvoir travailler avec les gens qui vous restent. Donc, ils ont déplacé les patients. Vous imaginez le traumatisme pour les patients, pour les familles, pour les personnels. Voilà. Et ça, l'ARS le fait d'une manière systématique. C'est-à-dire qu'il tape. Il tape. Agressivement, comme le gouvernement lui dit de le faire. Donc on est quand même sur une... C'est pour ça que les gens ont peu l'habitude de se mobiliser, sont en plus surpris, parce qu'il y a une violence qui est développée par le gouvernement, voilà, les gens sont sidérés, un petit peu à l'arrêt, quoi. Alors que nous, militants, je veux dire, qui sommes habitués à qui ont pris des lacrymos pendant la loi travail, pendant les gilets jaunes, pendant la première vague, etc. On voit bien la loi sécurité globale, tout ça, on voit bien ça arriver, et donc on n'est pas surpris de cette violence du gouvernement aujourd'hui, qui est reproduite par les ARS, qui est reproduite par les directions d'hôpitaux, et donc la direction hier, elle a fait ce qu'elle fait d'habitude, c'est-à-dire elle a fait demi-tour, on s'en va, il y a rien à, et on en arrête, et après on appelle la gendarmerie et la police, et on fait évacuer les personnes, sans violence, parce que les personnes ont été très raisonnables, mais en verbalisant quand même les gens.
Oui, on en parlera sûrement tout à l'heure avec le camarade qui était dans ce rassemblement. Et en fait, oui, ce qu'on comprend bien, c'est que l'intervention policière, c'est l'autre côté, enfin, on va dire le reflet de la politique répressive menée par le gouvernement, l'ARS et voilà la répression générale des dissidences au sein des soignants.
Des dissidences générales aussi, parce que c'est pas quand vous avez été dissident sur la loi travail ou sur la loi sécurité globale, vous voyez bien que de toute façon on vous tape dessus, quoi. Donc c'est pareil sur la loi d'urgence sanitaire, bien sûr, c'est la même chose, c'est le même schéma, mais c'est des soignants qui n'ont pas du tout l'habitude de ce type de réaction, quoi.
Et est-ce que tu te sentais, vous avez appelé à la grève aussi pour le 5 octobre ?
La grève du 5 octobre, on va dire que c'est quand même un petit peu différent, parce que c'est une grève nationale, intersyndicale, appel d'une intersyndicale, et c'est la problématique du pass sanitaire, de l'obligation vaccinale et de la pandémie n'est pas au premier plan de cette... Voilà. Donc nous, on appelle, Sud Santé Sociaux, Solidaires, on appelle à cette journée de mobilisation. Mais la problématique n'est pas tout à fait la même. Et ce qui est posé en toile de fond n'est pas la même. Nous, on essaye de faire le lien, en tant que militants syndicaux, entre ce qui se passe tous les jours dans la santé, et ce qui se passe sur les salaires, et ce qui se passe sur l'emploi, et ce qui se passe sur la protection sociale, avec la loi du chômage qui va passer on est le 30 aujourd'hui, hein, c'est demain, c'est le 1er, ou on est le 29 et demain c'est le 30 et le 1er. Voilà, hein, le 1er, c'est la mise en place de la loi... la nouvelle loi pour la réforme du chômage, on voit que la réforme des retraites risque de revenir. Enfin voilà. Donc tout ça, nous on essaye de faire le lien, et c'est pas très facile, parce que par exemple les gens qui sont aujourd'hui touchés par l'obligation vaccinale ne sont pas des militants et ne font pas directement ce lien. Et souvent ils nous disent oui mais non, mais nous on est sur la lutte, contre le pass sanitaire, on n'est pas sur le reste. On essaye de leur dire, mais c'est la même chose, c'est le même débat, c'est la même profondeur. Il faut faire attention, on ne peut pas séparer les choses. On fait partie d'un tout, et la politique globale, elle nous touche localement, sur notre travail, sur notre vie de tous les jours, mais c'est une politique globale qui est calculée. Voilà. Donc on essaye de faire ce lien-là.
Ben, merci beaucoup. Peut-être Alors j'ai déjà posé la question, peut-être des rendez-vous à venir ou
Alors les rendez-vous à venir, ils se font, les gens de Toulouse en lutte et de Toulouse Antipass pourront vous en parler. Nous, syndicalement, je vais être franc et clair avec vous, le débat sur la vaccination à l'intérieur des syndicats est très 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 compliqué, comme dans le reste de la population certainement. Et donc on se retrouve avec des discussions très difficiles à mener, à avoir, entre gens qui sont pro-obligation vaccinale et des gens qui disent « ben moi je veux garder ma liberté de choisir mon mode de santé et tout ». Voilà, avec des gens qui disent « oui mais vous êtes complètement inconscient » et puis d'autres qui disent « oui mais vous suivez ce que dit le gouvernement ». Donc voilà, c'est très compliqué.
Oui, je crois qu'on voit un peu, donc
un appel lisible de la part des syndicats ou d'une intersyndicale aujourd'hui sur cette question du pass sanitaire, malheureusement, on l'a bien vu, la lutte, elle a été faite par des manifs du samedi dans lesquelles les syndicats étaient quasiment absents. Le seul syndicat qui était présent, c'était Sud Santé Sociaux, en l'occurrence, et un petit peu des copains de Sud Éducation, de Sud Culture, mais d'une manière un petit peu plus diffuse, on va dire. Mais n'empêche que on est absent du débat. Sur celui-là, on est absent. Et donc, on fait une mobilisation le 5 octobre, qui a sa raison d'être, hein, je ne la nie pas. Mais malheureusement, je pense qu'il manque un petit lien. Il manque une étape, il manque une marche entre les deux-là.
Très bien. Mais en tout cas, on vous remercie. Puis on aura peut-être l'occasion de rediscuter de tout ça et de ces problématiques dans un... Voilà,
oui, je pense que la problématique n'est pas terminée,
globale.
Malheureusement. Et donc, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Je vous remercie pour le travail que fait la radio sur le média un petit peu indépendant.
Ben, je vous remercie. Passez une bonne journée. À bientôt.
À bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
Merci. On va continuer avec voilà, c'était le téléphone qui sonne. Une petite interlude musicale.
C'était un petit ravailleur qui ravaillait pendant des heures.
C'était un petit ravailleur qui ravaillait pendant des heures.
Il avait tant ravaillé qu'il était tout usé.
Il avait tant ravaillé qu'il était tout usé.
Il s'en va voir le docteur qui le examine pendant des heures.
Il s'en va voir le docteur qui le examine pendant des heures.
Le examen n'était pas fini, le ravailleur s'est endormi.
Le examen n'était pas fini, le ravailleur s'est endormi.
Le docteur, dans sa bonté, n'a pas voulu le réveiller.
Le docteur, dans sa bonté, n'a pas voulu le réveiller.
Au bout de 2 ans et 3 jours, le ravailleur dormait toujours.
Au bout de 2 ans et 3 jours, le ravailleur dormait toujours.
Les autorités du pays sont venues juger le délit.
Les autorités du pays sont venues juger le délit.
Ils ont condamné le docteur pour non-réveil de ravailleurs.
Ils ont condamné le docteur pour non-réveil de ravailleurs.
C'est pour ça que les gens d'ici sont si souvent raviolis.
C'est pour ça que les gens d'ici sont si souvent raviolis.
Ils chantent pour les bons docteurs qui laissent dormir les ravailleurs.
Ils chantent pour les bons docteurs qui laissent dormir les ravailleurs.
Ils chantent pour les bons docteurs qui laissent dormir les ravailleurs.
Ils chantent pour les bons docteurs qui laissent dormir les ravailleurs.
De retour dans le magazine de Canal Sud. Il est tout bientôt 12h30 et on est censé recevoir un appel bientôt d'un camarade qui participait à ce rassemblement devant l'Hôtel Dieu hier. Donc rassemblement devant... Ah, c'est sûrement lui. Oui, bonjour.
Oui, bonjour, c'est Mathieu.
Bonjour, tu es à l'antenne.
Ok, salut.
Salut. Du coup, c'est chouette que tu appelles. Est-ce que tu pourrais peut-être te présenter un petit peu le groupe, les collectifs avec qui vous avez mené cette action hier et pourquoi?
Alors oui, je fais partie d'un collectif qui est un peu informel et assez nouveau, qui s'est constitué autour des luttes contre le pass sanitaire, avec lequel on a fait quelques actions. Ce collectif, il est fait de citoyens d'un peu partout, des soignants, soignantes, éducateurs, éducatrices, des gilets jaunes, des précaires. Je fais aussi partie d'un collectif qui s'appelle Ozar, etc., qui est présent aussi dans ce groupe d'action, avec lequel on utilise du savoir-faire artistique pour s'inscrire dans la lutte. Des artistes et des opposants, opposantes au pass sanitaire de manière et à l'obligation vaccinale de manière assez large. Et on a commencé à se réunir, à être présents les samedis depuis le départ, depuis le 14 juillet. Essayer de proposer d'autres endroits que la manifestation pour s'organiser et essayer de mener des actions. Et de
Justement,
là,
ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'il y a une généalogie, enfin, l'histoire un petit peu de ces collectifs, ça commence avec les gilets jaunes.
alors il y a pour certains, ouais, il y a nous le collectif Ozar, etc., et un autre collectif avec le enfin qui s'appelle hyper informel mais qu'on appelle Action sociale, qui est constitué, oui, de majoritairement de gilets jaunes. Et c'est on est resté en fait sur l'héritage gilets jaunes, d'essayer de faire de l'interlutte avec les mots d'ordre, justice sociale, fiscale, écologique, sociale. Voilà, et rester un peu sur ces mêmes thématiques et essayer de s'inscrire dans les luttes, essayer d'aller de générer un peu d'interlude, quoi.
D'accord, du coup, vous savez, est-ce que c'est vous qui proposez des assemblées le samedi à midi avant la manif?
Alors on est aussi là-dessus. On a essayé de proposer ça, mais en espérant quand même qu'il y ait une volonté de ce mouvement de s'organiser. Après, c'est quand même très très enfin c'est assez compliqué. On est en petit nombre. Et ça n'a pas pris comme on espérait. Après, on maintient le truc parce que ça nous semble important de s'organiser en assemblée. Mais c'est un peu sur ce terrain-là, c'est un peu compliqué.
Ok, d'accord. Mais du coup, enfin, vous êtes présent depuis le début des manifestations, le 14 juillet, et vous avez déjà mené donc des actions.
Oui, on a fait quelques actions avec le format Ozar, etc., donc avec plutôt satirique, où on vient avec un dress code, s'inviter dans des lieux pour questionner en fait telle ou telle thématique. Là, on en a fait deux comme ça, une à Auchan et une à la gare. Mais à la gare, c'était plus axé sur la réforme de l'assurance chômage en fait. C'est un volet sur lequel on était aussi assez présent. On a été un peu à l'occupation du Théâtre de la Cité et très actif là contre la réforme de l'assurance chômage. On relançait un petit peu là-dessus. Ça, on a eu ce type d'action-là, et aussi on a généré une nouvelle forme, un nouveau protocole d'action qui est vraiment là plus contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale, qui s'appelle les actions contre coup de poing contre le délit d'opinion et
Est-ce que tu
action
pourrais
d'action
présenter
où
un petit peu ce que vous appelez, ce que vous entendez par action coup de poing contre le délit d'opinion?
Ouais, en expliquant ce que c'est, ça va donner la tonalité. En gros, on se rend dans les conseils d'administration ou les lieux administratifs de décision d'associations ou de secteurs qui actuellement mettent à pied des personnes pour raison d'opinion, en fait, parce qu'elles n'auraient pas la bonne opinion. On n'est pas là du tout vraiment pour juger de l'opinion. D'ailleurs, c'est pas du tout la spécialité des gens qui constituent en fait ces groupes d'action. Il y a des gens vaccinés, il y a des gens non vaccinés. On n'est pas là pour on n'a pas une question, on n'est pas unitaire sur cette question-là. Et d'ailleurs, c'est de l'opinion. Par contre, on est vraiment super unitaire contre le pass sanitaire, qui est un modèle sécuritaire qui s'inscrit dans les décennies qui a eu ces dernières décennies de construction d'un libéralisme autoritaire avec l'état d'urgence, on a vu sécurité globale, on a lutté contre sécurité globale aussi, et cette construction là qui tend un peu vers les modèles vers le modèle chinois un peu qui nous inquiète et contre lequel on lutte, et contre l'obligation vaccinale qui en fait, la mise à pied pour des raisons d'opinion, ça nous paraît vraiment complètement aberrant, quelle que soit notre opinion, pareil.
Modèle donc, chinois, modèle européen, modèle états-unien.
Oui, ça se répand partout, c'est vrai, c'est pas nécessairement. Mais le modèle chinois est là à l'heure actuelle quand même plus inquiétant. Enfin, c'est le plus avancé dans ce genre de processus-là, quoi. Et voilà.
D'accord. Donc, du coup, dans ces collectifs, vous vous retrouvez autour de cette critique-là et l'envie de justement aller, en fait, dans le soutien, en fait, de toutes les personnes en tant que travailleurs ou autres qui sont confrontés à ce fichage et à tout ce qui peut constituer ce qu'on peut voir en ce moment, en fait, ce que tu décris.
Oui, et la violence avec laquelle en fait on passe de des soignants qui sont les héros qu'on applaudit, auxquels on donne toute la solidarité, qu'il n'y a pas de problème d'aller envoyer au front, puisque c'est les termes guerriers du gouvernement, d'envoyer au front, mais jusque-là il n'y avait pas de problème, hein, même si les personnes étaient malades, elles allaient quand même travailler.
Oui, c'est vrai que ça a été rappelé, oui.
Oui, c'est complètement fou. Et alors qu'il pourrait y avoir d'autres protocoles que la seule vaccination, hein, c'est-à-dire que des personnes pourraient être OK pour se faire tester. Enfin, il y aurait d'autres mesures à prendre que la vaccination obligatoire et en plus de le contraindre par la force dans un modèle qui est un modèle capitaliste quand même de la gestion de cette pandémie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de levée des brevets. Alors que dans d'autres pays, on peut, enfin, il y a des pays qui attendent ces vaccins et pour qui c'est beaucoup plus compliqué. Et sachant qu'on est dans une gestion capitaliste et en plus ultra autoritaire, ça nous semblait nous pertinent de mettre notre savoir-faire d'action coup de poing au service là de cette actualité là qui actuellement est la plus brûlante et nous tient à cœur, en fait. Oui, et là c'est vraiment l'idée de venir en solidarité. Dans des endroits, il y a aussi des soignants-soignantes, hein, avec nous, mais on n'est pas un collectif de soignants-soignantes, on est un collectif citoyen, vraiment, qui est composé qui est assez varié, quoi.
D'accord.
L'idée, c'est de venir dans les conseils d'administration de ces lieux pour questionner, en fait. Après, l'idée, c'est pas de venir poser la bonne morale, hein. C'est vraiment on sait que la première action qu'on avait fait, c'était dans les locaux administratifs de l'association ARPAD qui lutte contre l'exclusion. Et en fait, ça me paraissait super paradoxal d'être une association qui lutte contre l'exclusion et à qui on impose de faire de l'exclusion, en fait, d'une partie de leurs salariés qui ont été mis à pied, mais pas du tout pour des raisons en plus professionnelles, parce qu'elles faisaient un très bon travail. Mais ces associations, du coup, sont contraintes à mettre à pied. On voulait voir comment construire avec elles, comment faire remonter l'information, enfin, comment essayer d'avancer sur cette question et contrer, en fait, ces mises à pied, enfin, voir qu'est-ce qui était possible de faire.
D'accord. Et vous avez aussi fait une action, il me semble, à l'hôpital Marchand la semaine dernière.
C'est ça. Ces actions, donc, contre les disques d'opinion, la première, ça a été à l'association ARPAD, la deuxième à Marchand et la troisième hier, du coup, à l'Hôtel Dieu.
Mais du coup, ça veut dire votre mode opératoire, en quelque sorte, si je n'utilise pas un vocabulaire un peu policier, mais c'est de préparer une action, de vous rassembler et d'aller dans les associations, dans les instances où il y a de la discussion pour un peu, on va dire, mettre les organisations, les institutions un peu au pied du mur en portant un message.
C'est ça.
Il y a un peu de ça.
Oui, il y a clairement de ça. L'idée, c'est quand même de remettre un peu d'humanité dans cette gestion-là, parce qu'on sent que tout est un rouage immuable, en fait, avec lequel on peut rien faire et on peut rien construire, alors que on a quand même affaire à des humains. Et là, en l'occurrence, à chaque fois qu'on va chercher de la responsabilité, et à juste titre, tout le monde dit, mais c'est pas notre responsabilité, on fait que appliquer les choses. Mais dans ce cas-là, il va falloir trouver des solutions pour changer, enfin, voir comment on peut, parce que ça reste inacceptable. Le droit du travail, là, il est quand même inédit, la manière dont il est atomisé avec ce genre de gestion-là. C'est quand même assez fou, et ça mérite un questionnement. Et on voit que par les instances habituelles, le questionnement, il est quand même assez sclérosé avec cette question de l'opinion, la bonne opinion à suivre. Et vu que c'est la bonne opinion, du coup, tout est légitime. Mais on essaye de venir être un peu un grain de sable dans ces rouages-là.
Vous allez chercher les humains et vous vous êtes retrouvé hier face à des humains gestionnaires d'hôpital qui ont suspendu la séance et d'autres humains en uniforme qui vous ont contrôlé et fait sortir du bâtiment.
Ah oui, alors là, hier, c'était un... Bon, jusque-là, ça n'a pas été une réussite de toute façon. On a quand même eu affaire... C'était plus facile à ARPAD, parce que c'est une association, donc c'est moins... la gestion administrative, elle est moins, enfin, on sentait que c'était quand même moins un appareil, quoi, qu'un marchand où déjà c'était un peu plus rodé. Mais on a quand même réussi à discuter un peu. Ça s'est pas fait dans la force. Et hier, en fait, on a eu le temps de rentrer à peine dans les bureaux que la direction est partie. On n'a pas eu l'occasion même de se présenter, en fait. Ils sont partis, ils ont arrêté la réunion, le CHSCT. En plus, en respectant pas le protocole de l'arrêt, parce qu'ils ont, ils ont pas proposé le vote de notre présence, ils ont pas proposé le vote de l'arrêt de cette réunion. Et donc, du coup, on a eu directement affaire d'abord à la sécurité, qui est venue mettre un premier coup de pression, ensuite à un huissier. Alors ça, c'était vraiment une première, d'avoir affaire à un huissier qui d'abord est venu nous dire que on n'avait pas l'autorisation de filmer. Okay. Et ensuite qui s'est fait le porte-parole en fait de la direction, à laquelle on n'a pas du tout, alors que les personnes de la direction venaient rentrer, auraient pu nous parler directement, mais parler à l'oreille de l'huissier. Et ensuite on a eu affaire, ouais, à la police pour nous sortir directement. Tout ça sans avoir pu vraiment discuter, alors que on venait, parce que il y a eu un article après de la direction qui redoutait la violence, mais il y en a eu absolument aucune, et c'était pas, c'est jamais notre intention. On va dans les bureaux pour discuter, et donc bon, il nous a été reproché la pression et la violence. Bon, la pression, je peux comprendre que interrompre une réunion quand c'est pas prévu, bon, ça peut surprendre, et c'est un peu l'objectif quand même, c'est de pouvoir sortir un peu du cadre et d'être surprenant, d'arriver à sortir en fait de la normalisation de ces règles. C'est que des règles qu'on applique, donc il faut sortir, il faut quand même mettre un petit, enfin, qui se passe quelque chose émotionnellement. Et mais par contre, il n'y a aucune violence, quoi. Il y a rien d'autre que des personnes qui viennent pour discuter.
Ok, on va abréger un petit peu cette interview pour pouvoir passer à la suite et écouter la CGT. Mais peut-être pour les auditrices, auditeurs qui ont envie de vous rejoindre, qui s'intéressent un petit peu à ce que vous faites, des lieux, des rendez-vous, des dates, des mails pour vous joindre, pour vous rejoindre.
Oui, alors du coup, on est la page principale sur laquelle on communique, c'est Toulouse en lutte. C'est une page Facebook qui était anciennement Gilets jaunes Toulouse, sur laquelle il y a vraiment l'agenda interlutte qui est publié, et généralement, enfin, tous les rendez-vous sont accessibles sur cette page-là. On publie aussi sur Démosphère Toulouse. Et sinon, on a aussi, bon, le collectif Aux Arts, etc., qui a une page aussi. Et pour finir, on a mis en place un groupe de travail, une framaliste, sur laquelle on peut communiquer, et là qui est vraiment axée sur les luttes contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale. Du coup, ça s'appelle lutteantipass31@framaliste.org.
D'accord, donc du coup, mais j'avais vu passer, mais c'est vrai que du coup, il faut vous envoyer un mail, quoi. Il n'y a pas
Alors,
de.
Là, il faut,
ouais. Ou aller sur Facebook.
Ou aller sur Facebook ou venir directement alors là il y a les assemblées du coup qui sont bon, on va voir. La semaine dernière on était présente, mais elle a pas vraiment eu lieu parce qu'on voulait qu'il y ait une logique d'autogestion, et comme personne n'avait pris les devants, elle a pas pu se tenir. Par contre on était quand même présent, je pense que ça, cette semaine, il risque d'y avoir quand même une assemblée. Et ensuite, il y a des... oui, il faut... Là, on n'a pas de rendez-vous précis pour... Il n'y a pas de futures actions. Il y en aura une la semaine prochaine, mais elle n'est pas encore fixée. Et,
D'accord. Donc, Toulouse, Toulouse en lutte, aux arts, etc., à trouver donc, sur les réseaux. Tu peux rappeler l'adresse mail?
Alors, l'adresse mail, c'est lutteantipass31. Alors, passe, c'est PA2S, 31, @framaliste, au pluriel, .org.
Bien, Mathieu, on te remercie. On aura sûrement l'occasion de rediscuter d'autres actions, d'autres thèmes, peut-être à l'antenne de Canal Sud. En tout cas, merci pour ton témoignage.
Ben, merci pour l'invite.
Bonne journée à toi.
Bonne journée. Au revoir.
Et on écoute Sarah Ebé avec Fuck the Power.
Estaban justo a punto de perder cuando se levantaron a quitarnos el poder.
El poder.
Estábamos a punto de poder, nos vallaron las alas y perdimos el poder.
El poder.
Hay muchos intereses que perder, muchos viejos de mierda desde siempre en el poder.
El poder.
Se ve que tienen miedo de perder, se ve que tienen miedo, mucho miedo de perder. Ahora que la llama se prendió, se ilumina la historia y ya sabemos qué pasó. El viejo tirano regresó con un peinado nuevo y el discurso en un papel. Serie de terror, máquinas de guerra en contra de nuestro amor. Temen tanto perder el poder, porque saben quién manda dentro en el pabellón.
De retour dans le magazine de Canal Sud, il est midi passé de 48 minutes et nous sommes en communication avec Julien Terrier de la CGT-CHU. Allô, bonjour Julien.
Bonjour.
Alors du coup, je ne sais pas si tu as écouté l'émission depuis le début, là on parlait un petit peu de cette intervention policière suite à cette séance du CHSCT qui notamment venait soutenir les soignants suspendus suite à leur refus de se vacciner notamment, mais pas seulement. Et alors la CGT... La CGT du CHU Toulouse, nous fait part ce matin de sa découverte d'un listing produit par la direction du CHU sur le statut vaccinal sérologique des travailleurs, travailleuses de l'hôpital. Est-ce que j'ai juste, est-ce que tu peux revenir là-dessus, présenter un petit peu de quoi il s'agit ?
Oui, c'est exactement ça en fait. C'est qu'on a eu des documents que le service santé au travail, en tout cas qui a normalement accès à des données médicales, a transmis à l'employeur des données médicales, notamment le statut vaccinal, le nombre de doses, le fait qu'il y ait des contre-indications ou pas à la vaccination, le délai de ces contre-indications, etc. Donc en gros, le fait si les agents ont eu le Covid ou pas. à la direction. Donc il s'agit de, on estime à une centaine de personnes. Ce sont ceux, en gros, qui ont envoyé leur statut vaccinal à la médecine du travail. Donc c'est pas la majorité des gens de l'hôpital, mais ça concerne pas mal de personnes, et donc c'est une violation alors caractérisée du secret médical. Pourquoi? Notamment un, sur la constitution de liste, donc qui n'est pas autorisée. Deux, sur l'envoi. En gros, le service santé au travail doit dire si la personne est apte ou pas à prendre son poste, quoi. Voilà.
Est-ce que revenir rapidement sur, pour qu'on comprenne bien, sur le statut peut-être de la médecine du travail, qui, je crois, normalement a une certaine indépendance vis-à-vis de l'employeur, non? Je me trompe?
Alors oui, c'est vrai, mais sauf que de plus en plus de réformes ont lieu sur la médecine du travail, sur la santé au travail, enfin, surtout sur les services santé au travail. Les services santé au travail ont de moins en moins d'indépendance, justement, par rapport à l'employeur, et l'employeur leur fait jouer des rôles qu'ils n'ont pas à jouer, en fait, et notamment ça. Et c'est pas que là-dessus, hein. C'est sur aussi la gestion des clusters, l'évaluation des risques par rapport au Covid, et même en soi, la vaccination du personnel, ben, c'est la responsabilité de l'employeur. Alors après, les employeurs se défaussent complètement sur les services santé au travail, où il y a très peu de monde, où il y a très peu de moyens pour faire des obligations qu'ont l'employeur. Et
allô,
quand c'est allé. Oui.
Non, pardon, ça a coupé une seconde. Ouais.
Ah, d'accord. Et en plus, là, on ne sait pas d'où ça vient. Justement, c'est pour ça qu'on a déposé une plainte, nous, pour qu'il y ait une enquête. Mais est-ce que c'est l'administration qui a demandé? Est-ce que ça s'est fait tout seul? Est-ce que, mais c'est pas du tout normal que un employeur ait accès à des données médicales, oui, notamment. Et puis, il y a d'autres sujets, en fait.
Alors,
il n'y a pas
peut-être
que celui-là.
Peut-être revenir pour que tout soit clair. Donc, en effet, les employeurs n'ont pas le droit de lister ou même de peut-être d'accéder à ces informations privées, intimes sur la santé des gens. Est-ce que peut-être tu pourrais rappeler pourquoi c'est important que les employeurs n'accèdent pas à ces informations ni les listent?
Bah, c'est tout simple, c'est le fait de pouvoir anticiper si telle ou telle personne va peut-être être en arrêt, si c'est une personne qui pourra pas avoir accès à certains postes parce qu'elle a, ils ont assez de données médicales pour estimer que ils sont pas, que voilà, il peut y avoir des conséquences directes, y compris les méthodes d'avancement vont changer dans la fonction publique. Et la question de l'état de santé, malheureusement, et on le combat, mais va rentrer en compte dans l'avancement, ce qui est complètement fou, quoi. Donc, en fait, toutes ces données-là, et puis tout au-delà, hein, même pour affaiblir quelqu'un en termes de management, c'est toujours plus facile quand on a des données médicales sur la personne. Donc, tout ça fait que, ben, c'est évident, hein, le secret médical, c'est quelque chose d'extrêmement protégé, et avec même des sanctions pénales quand il y a viol du secret médical. Donc en fait, là, il y a une situation particulière qui est l'épidémie Covid, mais ça n'autorise pas à donner des données médicales, même dans le cadre d'une obligation vaccinale et même dans le cadre d'une crise sanitaire, etc.
Et donc, du coup, vous êtes en train de porter ça, alors de porter plainte contre ça, j'ai entendu. Pardon.
Oui, nous, on va déposer une. Alors, déjà, on a saisi la CNIL parce qu'il y avait eu d'autres problèmes. Et on a inclus
Commission
ce problème-là
nationale
dans notre
information et liberté.
Oui, pardon. Oui, oui. Qui, normalement, doit contrôler le respect de la vie privée, etc. Le secret médical étant dedans. Donc, on avait saisi la CNIL et là. Là, concrètement, on a même eu des preuves que des personnes avaient choisi aussi de ne pas informer l'employeur d'aucune façon de leur statut vaccinal. C'est une forme de protestation. Ils étaient vaccinés, etc. Mais c'est une forme de protestation sur le fait que l'employeur n'a pas à savoir même, enfin, voilà, le statut vaccinal. Donc certains n'avaient envoyé à personne. Et ces personnes se sont retrouvées aptes et non suspendues par l'administration, alors qu'elles n'avaient pas donné d'informations. Donc déjà, il y avait un soupçon.
C'est-à-dire, bah oui, bah en fait, en même temps, si la vaccination, c'est une condition pour garder son emploi, en fait, logiquement, on est obligé d'informer, en fait. Ça inclut ça. Ça inclut voilà. qu'on est. Et en fait, c'est une voilà, obligation d'informer sur son statut vaccinal, sérologique, son employeur, quoi. Et ça, mais ça, c'est pas formulé dans la loi d'août. Enfin, du coup, pas de cette manière-là, peut-être.
Alors, si, elle est formulée dans le sens où on doit donner preuve de. Du statut, enfin, d'un pass sanitaire et même de la première injection depuis le 15 septembre.
Donc cette violation du secret médical, elle est inscrite dans la loi d'août, du 5 août.
Alors, celle-là, oui, mais elle est protégée dans le sens où ça doit être certaines personnes qui reçoivent cette information, notamment le service santé au travail, et qui ne dit pas s'il y a une dose, deux doses, ou s'il y a une contre-indication à la vaccination, ou etc., etc., qui dit juste apte, pas apte à prendre le poste.
Okay.
Et c'est comme ça que c'est protégé. Et là, c'est là qu'il y a eu le problème. C'est que si l'information qui est transmise, c'était pas apte, c'était a fait sa première dose tel jour, a fait sa deuxième dose tel jour, a une contre-indication avec vaccination jusque, hein, ce qui veut dire que la personne a eu le Covid, donc les gens ont le droit de faire en sorte que l'employeur ne sache pas si ils ont eu le Covid ou pas, enfin... C'est un droit fondamental et là l'information est passée. Donc tout ça et on avait justement bien cadré les choses puisqu'on avait écrit nous à la protection des données de l'hôpital pour bien garantir qu'il n'y ait pas de problème par rapport à ça. Ils nous ont confirmé qu'il n'y aurait pas de problème par rapport à ça. Et il y a eu des problèmes par rapport à ça. Donc nous on avait déjà anticipé des choses parce que on sait que la question du secret médical des soignants, il y a une vraie question autour de ça, parce que depuis longtemps, on dénonce plein de problèmes des demandes un peu bizarres de l'administration, demandant, par exemple, pendant les arrêts maladie, la raison de l'arrêt maladie. Quoi. Donc ça, c'est des choses qui existent déjà dans les hôpitaux et qu'on condamne depuis longtemps. Et donc, on savait qu'il y aurait un problème par rapport à ça, malheureusement, et il y a eu un problème par rapport à ça.
Ok. Et bon, mais en même temps, bon, je crois que c'est compliqué de parler de toute cette question parce que juste avant, là, on discutait avec d'autres personnes qui s'opposent et qui parlaient justement de la manière dont c'est compliqué d'aborder ces questions-là au sein des syndicats, que c'est compliqué d'en parler aussi parce que on est face à des questions qui ont des questions de sur le long terme, mais en fait aussi sur lesquelles. Il y a de fortes dissensions et je me dis, mais en fait, même cette question de apte, pas apte, ça questionne aussi, quoi.
Oui, non, mais tout à fait. Non, mais nous, on a combattu la loi du 5 août. Hein. Mais même dans le cadrage qu'ils ont fait de la loi, ils ont débordé. Mais parce que cette loi est une loi liberticide, de toute façon, et qu'elle est faite pour aller au-delà des libertés. Et d'ailleurs... permettent du coup d'empêcher les gens de rentrer ou d'intervenir comme ça s'est passé au CHSCT. Nous, on nous a empêché ce matin de rentrer à une autre instance, le CTE.
Les sigles.
C'est l'équivalent du CE, CSE. Donc c'est le conseil technique d'établissement, c'est là où se prennent les gros dossiers de l'hôpital. Et nous, on nous a empêchés de rentrer aussi parce qu'on n'avait pas présenté notre QR code alors qu'ils connaissent tout notre statut, statut vaccinal. Enfin, ils savent si on est apte ou pas à travailler. Enfin, tout ça est fait pour... Ils profitent de la loi du 5 août, mais comme on le dit, pour aller beaucoup plus loin, contre les libertés, etc. Et nous, notre rôle, là, c'est de... Quand ils dépassent le cadre légal, non seulement combattre la loi, mais en plus... combattre aussi tous les dépassements du cadre légal qui sont en train de faire. Quoi.
Et donc la direction a été confrontée sur cette question des listings. Vous avez eu quel retour ?
Ce matin, on leur a montré les listings et on leur a dit qu'on allait déposer une plainte. Ils nous ont dit oui, on reconnaît que c'est une erreur, mais ça a été corrigé très vite. ils peuvent dire que c'est une erreur, mais quand il y a une atteinte aussi grave. Un droit fondamental hein, qui est le droit au respect du secret médical, là c'est pas suffisant, mais du coup l'enquête, nous c'est important qu'on pose plainte parce que une enquête va déterminer tous les autres problèmes, parce que je suis pas détaillé, mais il y a d'autres problèmes aussi, même là pour tous les agents du CHU dans la transmission des données aussi vaccinales. du personnel du CHU. Donc il y aura un second le feuilleton, il y aura un deuxième épisode.
Oui, puis c'est aussi ce dont on parlait en première partie, c'est la temporalité de la justice versus la temporalité des agents suspendus qui reçoivent pas de salaire, voilà.
Et tout ça, par rapport à ça aussi, on se bat pour que les agents, au moins ces agents-là, bon, évidemment, essaient de pas être suspendus, mais bon, là, les premiers jugements sont tombés, c'est perdu, et sinon, que ces agents aient droit au chômage, quoi, aux allocations chômage, au moins, pas crever de faim, quoi, et puis, surtout, qu'ils puissent être, ou être reclassés, ce qui était prévu à un moment, dans les textes, d'être reclassés momentanément, hein, pendant la pandémie, sur des postes qui n'étaient pas face au public ou qui doivent présenter un test de PCR toutes les 72 heures, ce qui est quand même le plus safe qui existe si on veut. Effectivement, c'est mieux quand les hôpitaux ont le moins de Covid possible parmi les gens qui circulent dans l'hôpital. Et là, le meilleur, finalement, c'est le test PCR toutes les 72 heures. Et là, c'est même mieux que la vaccination. Donc, c'est pour ça qu'on attaque sur tous les fronts, nous, cette loi du 5 août.
C'est quoi la situation d'une personne, d'un soignant suspendu, en fait, aujourd'hui? C'est pas de chômage?
C'est l'horreur. C'est pas de chômage, c'est zéro de salaire. Même une injonction à ne pas aller travailler ailleurs, ce qui est complètement fou. Donc, nous, on dit aux gens, si vous trouvez pour bouffer à travailler ailleurs, allez-y, parce que qu'est-ce qu'ils peuvent vous faire de pire qu'une suspension sans salaire. Il y a vraiment on est sur la sanction la plus violente qui n'a jamais existé dans la fonction publique. Il faut comprendre, nous on a eu récemment, le CHU a été condamné pour avoir protégé un harceleur sexuel.
Il y a
eu une situation comme ça. Le fameux harceleur sexuel est toujours au CHU, il est toujours payé, il a eu un blâme, donc un papier qui reste 3 ans dans son dossier, et a été promu. Donc vous voyez, un harceleur sexuel est beaucoup mieux traité au CHU de Toulouse qu'une personne non vaccinée.
Donc il n'a pas été déchu, il est au CHU, si je peux me permettre un jeu de mots.
Ah oui, il n'a pas été déchu du tout, non. Donc, mais même c'est d'autres exemples. Si ça peut arriver, c'est déjà arrivé malheureusement. Mais un soignant maltraitant qui ferait du mal à un patient, ça nous est arrivé malheureusement. Et ben cette personne a droit à une suspension conservatoire. C'est-à-dire, il est suspendu avec son salaire en attendant qu'il y ait une enquête ou qu'il y ait quelque chose. Enfin,
ce qui n'est pas le cas pour les soignants non vaccinés.
Pas du tout. Non, c'est la violence managériale la plus totale. Mais nous aussi, syndicalement, pourquoi c'est important de combattre ça? Parce que demain, ces suspensions, son traitement, elles vont se multiplier pour d'autres choses. Là, ils profitent de la crise Covid pour tenter des choses. Et demain, ce sera parce qu'on n'adhère pas aux ordres professionnels. Demain, ce sera parce que, je sais pas, on respecte pas un ordre de l'administration. Demain, parce qu'on va pas faire l'entretien annuel d'évaluation, qui est une espèce d'horreur managériale qui est en train de se mettre en place dans l'hôpital. Ouais, des choses comme ça.
Oui, on comprend bien le contrôle sanitaire comme outil plus large pour un contrôle social, politique, économique. On aura de beaux jours devant nous pour en parler.
Ça, je crois qu'on va en parler beaucoup, oui.
Et du coup, peut-être vous pose... Bah oui, alors peut-être des choses à rajouter
Non, mais en plus, je pense que la colère, elle va être... Là, les gens ont eu peur, quoi. Donc, beaucoup se sont fait vacciner avec la peur au ventre, ce qui n'est pas bien aussi, hein. Se faire vacciner parce qu'on va perdre son salaire ou tout ça, c'est jamais... C'est le pire. Nous, en fait, comme on est soignant, on cherche le consentement sur toute thérapeutique. Donc, nous, on fait ça pour nos patients, mais on nous force la main, on nous torde le bras pour aller prendre une thérapeutique, c'est absolument... C'est très, très violent pour nous, les soignants. Ça, c'est évident. Et en plus, je ne sais pas si vous avez vu, aujourd'hui sont tombés les décrets, là, des fameuses augmentations Ségur que le gouvernement avait promis.
Dont on a parlé dans le magazine, avec votre collègue.
Ouais. Et ils sont très, 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 très loin de la com du gouvernement. Ouais. Et là, je pense que la colère va être très, très importante au niveau des hôpitaux. Et pour avoir des conséquences assez importantes.
Des rendez-vous, lieux, agenda pour poursuivre un petit peu vos luttes, votre actualité.
Là, le gros, le gros, Plutôt rassemblement, là, ça va être le 5 octobre, donc à 10h30 à Arnaud-Bernard. On se joint à tout le monde pour la hausse des salaires globales, et justement parce qu'on vient de voir nos décrets, les décrets d'application du Ségur qui sont complètement insuffisants. Donc on appelle déjà tous les hospitaliers et tous ceux qui nous soutiennent à venir être en grève le 5 octobre. Et puis il y aura d'autres dates, évidemment, d'ici là, parce que les choses... Bon, la colère va monter encore plus d'un cran là, dans les hôpitaux.
Eh ben, merci beaucoup pour votre intervention et puis peut-être à une prochaine fois dans le magazine. Ouais. En tout cas, merci pour votre appel.
Ok, ben, merci.
À bientôt, bonne journée, au revoir.
Au revoir.
Et on poursuit avec un titre du groupe Gratuit.
Je crie.
De retour dans le magazine de Canal Sud, il est 13h et bientôt 10 minutes. J'en profite pour annoncer les rendez-vous puisque justement à l'instant le camarade de la CGT Santé nous invitait à rejoindre la manifestation Place Arnaud-Bernard mardi 5 octobre prochain à 10h30 place Arnaud B pour répondre à un appel national, intersyndical, contre l'assurance chômage. Je n'ai pas le texte sous les yeux, mais en tout cas, un appel large que vous pourrez retrouver sur les internets. Mais avant ça, sachez qu'il y a bien un rendez-vous ce samedi dans la rue à 14h à Jean Jaurès, pour retrouver notamment Toulouse Antipas, mais aussi le cortège contre l'exploitation et les frontières, toutes les personnes qui viendront manifester à la fois contre le pass et contre ce libéralisme autoritaire, pour faire large, qu'on nous sert. Donc voilà, donc rendez-vous. J'avais pas trouvé sur les réseaux, du coup c'est confirmé, il y a bien un rendez-vous à 14h à Jean Jaurès. Et maintenant je vais vous diffuser une prise de son qui a été enregistrée, c'était mardi dernier, c'était le 28 septembre dernier. Le 28 septembre, c'est la journée internationale pour le droit à l'avortement, et donc il y avait plusieurs collectifs et de manière plus générale des personnes, des féministes, rassemblées au Capitole à 18h et qui ont manifesté jusqu'à Saint-Cyprien pour défendre le droit à l'avortement. Et autant vous dire que c'était assez chouette, il y avait plein de personnes jeunes, enfin plus âgées, il y avait tous les âges, et toutes unies pour défendre le droit à l'avortement. Donc voilà, une petite prise de son d'une vingtaine de minutes pour vous mettre un petit peu dans cette ambiance-là, si vous l'avez manqué.
Alors, sur cette affiche, il y a marqué « Droit à l'IVG, un enfant si je veux, quand je veux, avec qui je veux ». C'est simple, efficace, et j'espère que les gens le comprendront.
Et toi, il y a écrit quoi sur ton affiche ?
Alors, moi, il y a écrit « Mexique, IVG enfin légal, bravo aux féministes ». Parce que depuis à peu près 3 à 2 ans, les féministes mexicaines sont en train de mener plein de combats par rapport à la violence, au féminicide, à l'IVG au Mexique. Et le Mexique, en ce moment, par rapport au féminisme, c'est l'un des pays qui bouffe le plus. Donc voilà, c'est important.
Et faut pas oublier de dire qu'elles risquent leur vie tous les jours pour ça.
C'est ça. Donc c'est important d'apporter notre soutien en France, parce que voilà, c'est important que ça soit international, en fait, le droit à l'IVG.
Surtout dans le pays des droits de l'homme. C'est pas ici qu'on le fait.
C'est ça. On entend encore beaucoup de monde dire qu'en France, c'est bon, on a le droit à l'IVG et tout ça, et que c'est OK. Mais la lutte, elle doit aussi être internationale. Je veux dire, quand on voit que le Texas, qui est censé être dans un pays avec des droits et tout ça, peut encore, en 2021, rendre l'avortement illégal, il y a un problème. Internationalement, il y a un problème, en fait.
Et vous êtes dans un collectif, vous êtes dans une association ?
Alors moi, je fais partie d'une association, les Calinous d'Haïti, qui est basée sur Pau, en fait, et qui vient en aide à la Maison de l'Espoir, donc l'orphelinat d'où je suis originaire. Mais donc ça n'a rien à voir avec ça, mais moi, en parallèle, c'est vrai que je suis très engagée. Et en tant que femme et future mère, et en tant que fille aussi, je trouve ça important de soutenir ce genre de cause, voilà, tout simplement, parce que ça peut toucher nos mères, ça peut toucher nos cousines, toutes les femmes et toutes les personnes, en tout cas, qui se sentent comme femmes, voilà, très important. J'ai pas autre chose à rajouter.
Et toi, du coup, c'est quoi qui te parle dans cette lutte pour le droit à l'avortement ?
Alors en effet, moi je viens plutôt des afro-LGBT, mais il y a toujours eu un dialogue entre féminisme et LGBT. Et moi en fait, c'est l'inverse, je suis lesbienne, donc j'ai dû me battre pour éventuellement avoir le droit de porter un enfant si je voulais avec la PMA. Et du coup, je trouve qu'en fait, ça, c'est total dialogue, c'est total miroir avec la lutte pour l'IVG, en fait. Si les personnes qui peuvent porter des enfants, femmes, hommes trans, personnes non binaires, doivent se battre pour avoir la PMA, ben, d'autres personnes qui peuvent également porter un enfant mais qui, elles, ne le désirent pas, doivent se battre en fait pour avoir le droit d'avorter. C'est ça, c'est vraiment en fait mon corps, mon choix, que ça soit dans le choix d'avoir un enfant avec le partenaire qu'on veut ou seul, ou le choix de ne pas vouloir un enfant et de ne pas en avoir.
Tout à fait.
Merci. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, parler de un petit peu le contexte là, du coup il est 18h, on est mardi 28 septembre, on est au Capitole, il y a pas mal de flics à côté, de parler un petit peu de l'ambiance, de ce qui se passe autour là?
Mais en fait, on le remarque généralement, les manifestes féministes font déplacer énormément de policiers, ouais. Parce que même si ça reste des manifs relativement pacifique, on essaye.
Après, il y a une image collée, voilà. Sur la féministe, ça a l'air, qui va tout dévaster, alors que, bah non en fait, et que malheureusement, les quelques fois où ces femmes-là, elles ont dû être violentes, entre guillemets, c'est parce qu'on ne les écoutait pas. Donc voilà, au niveau de l'ambiance, comme elle disait, voilà, on est en cœur. Vous entendez derrière, voilà, on est là, et on bouge pas, et il faudra qu'on nous écoute un de ces jours, parce qu'on est l'avenir, on est le futur, et au-delà de ça, bah, on est la moitié de la population, donc bon, voilà. Donc voilà. Voilà. Mais venez, hein.
C'est ça.
Vous avez le temps, venez.
En fait, cette présence policière est juste la preuve de l'État patriarcal qui a, exactement, besoin de surveiller les femmes dès qu'elles font une protestation pour leurs droits, et voilà, et on cite souvent... Il me semble que c'est Simone de Beauvoir, si c'est pas la bonne, qui dit qu'il suffira d'un bouleversement pour que les droits des femmes soient remis en question. Et voilà, on est post-crise du Covid, on est dans une grosse crise politique depuis 2018, on est dans la crise climatique. Et en effet, on voit que c'est les droits des minorités, les femmes, les LGBT, les personnes racisées, qu'on cherche en premier déjà à museler et peut-être à contrôler, voire à bannir. Donc c'est ça en fait l'ambiance, on est là. Et ça reste quand même une bonne ambiance, mais voilà, faut pas oublier qu'il faut être vigilant en fait, voilà. Il va falloir être vigilant les années qui suivent, voilà, surtout avec certains candidats à la présidentielle qu'on ne nommera pas.
Allez voter, allez voter.
Oh là là, ça aussi.
Tout est à nous,
tout est à nous,
la
déta,
encore nos vies nous appartiennent,
nous appartiennent, nous appartiennent,
notre action gratuite. Libre avortement. Voilà, ça va péter.
Ça va péter.
Voilà, ça va péter.
Alors, on va vous lire notre déclaration. Partout dans le monde, les mouvements réactionnaires et d'extrême droite remettent en cause les droits des femmes et des minorités de genre à avorter. Ils agissent avec de larges moyens de communication, soutenus par des gouvernements et des lobbies. Quand ce droit n'est pas encore acquis, le choix d'avoir ou non un enfant continue d'être bafoué. Ce droit est essentiel dans le chemin d'émancipation, de liberté et d'autonomie des femmes et minorités de genre. En Argentine, au Mexique, elles ont obtenu des victoires significatives et par leur mobilisation, elles ont imposé que l'interruption volontaire de grossesse devienne un droit inscrit dans la loi. Au Texas, l'IVG après 6 semaines est interdit depuis peu. Même en cas de viol ou d'inceste. En Europe, en Pologne, à Malte et dans quelques micro-États comme Andorre et Saint-Marin, le droit à l'IVG n'existe pas ou est très limité. Monaco dépénalise l'IVG, mais sa pratique reste interdite. Mais les femmes continuent de lutter, comme au Mexique, en Argentine, au Brésil, en Hongrie, aux USA. Nous subissons un contrôle politique de nos corps. Au travers des politiques d'encadrement, d'interdiction, allant jusqu'à la stérilisation forcée. Partout, nous dénonçons l'exploitation de nos corps au service du capitalisme et du patriarcat. Nous voulons nous réapproprier nos corps et pouvoir user pleinement de nos droits reproductifs. En France, chaque année, 5000 femmes partent à l'étranger pour avorter parce qu'elles ont dépassé les 12 semaines de délai légaux. Avec la fermeture des frontières et le contexte de crise sanitaire, ces difficultés pour accéder à l'IVG ont augmenté. Ici, l'accès est plus difficile en cas de test positif au Covid-19. Notre droit à l'IVG est entravé. Les mesures d'austérité économique ont provoqué la fermeture de nombreux centres d'IVG. Les restructurations hospitalières et la fermeture des maternités de proximité ont un impact direct sur l'accès en pratique à l'avortement.
Il est toujours difficile de trouver des professionnels, car l'IVG est encore considéré comme un acte médical à part. Pourtant, au moins une femme sur trois avorte. En effet, au-delà de la clause de conscience générale s'appliquant en médecin pour tout acte qui permet de refuser cet acte, l'IVG est concerné par une double clause de conscience spécifique. Certains et certaines professionnels qui ne pratiquent pas l'IVG refusent d'orienter les patients et les patientes vers d'autres médecins, alors que la loi les oblige. De plus, on interdit aux sages-femmes de pratiquer des IVG instrumentales. Bravo, bravo, bravo. Enfin, les jeunes n'ont pas toujours accès aux informations qui leur permettraient de faire valoir leurs droits. La loi Aubry, qui prévoit 3 heures annuelles obligatoires d'information à la vie affective et sexuelle pour chaque niveau de scolarité, n'est pas appliquée.
Nous sommes solidaires de toutes les femmes et minorités de genre dans le monde qui se battent pour conserver ou conquérir le droit à l'avortement.
Le 28 septembre est la journée mondiale pour le droit à l'avortement. Nous exigeons 1. Des délais légaux pour avorter allongés significativement. 2. La suppression de la double clause de conscience sur l'IVG pour les professionnels de santé et l'obligation de réorientation, sinon sanction.
Le libre choix de la méthode employée pour son IVG. La possibilité et les moyens pour les sages-femmes volontaires, je précise volontaires parce qu'elles n'ont aucune reconnaissance ni salariale ni d'assurance pour le pratiquer aujourd'hui, de pratiquer des IVG instrumentales et permettre un accompagnement beaucoup plus proche et beaucoup plus humain. La réouverture des centres d'IVG fermés et des moyens financiers, des centres de planification accessibles à toutes sur l'ensemble du territoire. La gratuité des méthodes de contraception pour toutes, même après 25 ans. Et dès le collège, 3 séances par an d'éducation à la vie affective et sexuelle, égalité des genres dans tous les établissements scolaires. Donc on est réunis ce soir pour manifester notre colère sur ce qui se passe partout dans le monde, mais également pour manifester notre colère sur ce qui se passe ici, en France. Le droit à l'IVG existe, les délais sont insuffisants, mais également les moyens sont en train d'être supprimés. Et comme ça a été dit dans cet appel, le Covid n'a rien apporté de bon. Bien au contraire, des femmes se sont vues dépasser les délais, obligées d'aller à l'étranger pour avorter. Mais ça, tout le monde s'en fout. Donc ça, c'est dramatique. Il faut des moyens suffisants. On va manifester ce soir pour le crier haut et fort. On ira toutes et tous ensemble jusqu'à la Grave, qui est quand même un lieu symbolique à plusieurs niveaux. C'est une ancienne maternité, mais c'est un lieu d'accès aux soins en centre-ville de Toulouse et un lieu d'accès aux soins qui est gravement remis en cause aujourd'hui, notamment avec la vente de ces bâtiments à Kaufmann & Broad. Donc ce sera aussi pour crier notre colère sur la question de l'accès à la santé.
Ah, si Marie avait connu l'avortement, on n'aurait pas tous ces emmerdements. Ah, si Marie avait connu l'avortement, on n'aurait pas tous ces emmerdements. Ah, si Marie avait connu l'avortement, on n'aurait pas tous ces emmerdements. Ah, si Marie avait connu l'avortement, on n'aurait pas tous ces emmerdements.
Nous, ce qu'on porte de manière hyper forte au planning, c'est de dire que tant qu'il y aura des délais, il y aura des personnes qui seront en dehors de ces délais et qui seront contraintes de partir à l'étranger pour avorter. Et du coup, partir à l'étranger, ben, c'est une logistique, c'est des sous, c'est du temps que la plupart des personnes n'ont pas. notamment quand ces personnes elles sont mineures, ça met encore plus le sbeul dans l'accès à ce droit fondamental de l'avortement. Voilà. Et du coup, nous, on prend vraiment la suppression de tout délai en se disant que c'est les personnes qui doivent choisir pour elles-mêmes, par elles-mêmes, ce qu'elles souhaitent faire de leur
rappel, les délais aujourd'hui, c'est 12 semaines.
Tout à fait, c'est 12 semaines. Cette question des délais, elle nous tient particulièrement à cœur parce qu'à Toulouse, on a une caisse de solidarité pour les IVG hors délai qui permettent de justement financer le coût des interventions qui sont entre 500 et 2000 balles et de financer aussi le trajet, voire l'hébergement pour les personnes qu'on accueille au planning. Et ces personnes, elles sont accompagnées par des bénévoles du coup qui font du travail émotionnel, aussi du travail de recherche pour s'y connaître sur comment ça se passe dans les cliniques espagnoles, par exemple, et qui donnent de leur temps pour faire au mieux pour que les personnes aient quand même accès à ce droit malgré les restrictions de la loi en vigueur, quoi. Au planning, on a avant tout un lieu d'écoute, d'information, de réorientation sur toutes les questions de vie affective et sexuelle. Et notamment sur les questions de l'avortement, on est quand même repéré comme une association où on peut venir quand, pour faire un test de grossesse ou quand on sait qu'on est enceinte et qu'on ne sait pas comment gérer la situation, qu'on veuille avorter ou non. Mais en tout cas, c'est un espace de parole où on peut être écouté par des professionnels formés sur ces questions. Et donc, on a des permanences gratuites, sans rendez-vous et confidentielles du lundi au jeudi de 13h30 à 17h30, quelque chose comme ça. Donc, c'est vraiment, on invite tout le monde à venir et il y a besoin... De pas grand chose à part de se ramener, voilà. On peut être accompagné par un ami, une amie, membre de famille, conjoint-conjointe ou voilà, partenaire. Il n'y a pas de souci là-dessus aussi. Et donc l'idée, c'est vraiment de donner les informations, un maximum d'informations pour que les personnes puissent faire les choix par elles-mêmes. En aucun cas, nous, on dit aux personnes quoi faire ou quoi penser par rapport à leur propre corps.
Mon corps, mon choix, et ferme ta gueule. Mon corps, mon choix. Et ferme ta gueule, 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 mon corps, mon choix. Et ferme ta gueule. Et ça c'est pour Trump. Mon choix. Et ferme ta gueule. Pour les députés du Texas.
Il y a marqué quoi sur ton pancarte?
Donc c'est on veut maintenant un accès à l'avortement au centre IVG, confinement ou pas, et un délai légal d'avortement étendu à 14 semaines, c'est ce qui me paraît normal. Et enfin, déjà là, 12 semaines, c'est pas assez, plus que normal de passer à 14 semaines. La loi, elle devrait passer directement, c'est pas normal qu'on soit là à manifester pour ça. Et j'adhère avec toutes les valeurs en fait, et tous les droits qui sont en train d'être défendus aujourd'hui. Pas que les 14 semaines, aussi l'accès à tout type d'IVG ou le fait d'avoir accès à des cours pour au collège d'éducation.
Justement, c'est un peu la question que je vais te poser. Est-ce que toi, ça fait longtemps que tu as les infos en fait, sur l'avortement, par exemple?
Non, ça fait vraiment pas longtemps. Et je les ai eues parce que je me suis renseignée, parce que je sais que j'ai cherché l'information sur Internet, mais on ne me les a pas données. Et en fait, on devrait nous les donner, même très tôt, en fait. Dès le collège, lycée, on devrait être au courant de tout ça.
Toi, en tant qu'élève au collège, au lycée, tu as eu des cours d'éducation à la santé sexuelle?
J'ai dû en avoir, mais ils ne devaient pas être très élaborés vu que j'en ai pas souvenir. Et je ne me souviens pas en tout cas d'avoir eu ces infos-là.
Est-ce que tu peux me lire ce que tu as écrit sur ta banderole?
Du coup, j'ai écrit « Je veux disposer de mon corps comme je dispose de ma vie ».
Et qu'est-ce qui t'a inspiré pour écrire ça? Des discussions peut-être que tu as eues avec tes potes?
Ma vie personnelle surtout. Parce que il y a des moments où, dans ma vie où genre, j'avais peur de tomber enceinte et de me dire comment est-ce que je vais faire pour avorter, sachant que moi je viens d'une famille qui est très très croyante et c'est très difficile en fait d'avorter. Et
d'en parler?
Même d'en parler, oui c'est vrai. Et même au niveau des démarches, je trouve que c'est assez compliqué d'aller trouver des gens pour bien à qui en parler et faire les démarches aussi, c'est hyper compliqué. Enfin, Surtout, genre, je me suis dit, si je tombais enceinte pendant le confinement, mais comment j'allais faire parce que j'avais des doutes sur si j'étais enceinte ou pas. Et je voulais appeler le planning familial, sauf que le planning familial n'était pas disponible tout le temps. Enfin, il était disponible qu'à certaines heures et c'était à des heures où moi, je n'étais pas disponible. Et du coup, je me suis dit, mais enfin, heureusement, je n'étais pas tombée enceinte, mais si j'étais enceinte, mais comment j'allais faire pour avorter, quoi. Donc, voilà.
À quel moment, toi, dans ton parcours, peut-être à l'école ou quoi, t'as eu des cours d'éducation sexuelle? À quel moment t'as eu des informations sur, justement, ton droit à l'avortement?
Alors, j'ai pas eu d'informations sur l'avortement quand j'étais à l'école. Vraiment pas du tout. Enfin, on s'est juste concentré sur la contraception. Mais, voilà, tout ce qui est préservatif, pilule, tout ça. Mais l'avortement, on n'a jamais évoqué ça dans la scolarité. Et j'ai été informée par rapport à ça que bien plus tard. Enfin, vraiment à la fac où j'ai commencé à connaître l'avortement. Après, c'est aussi peut-être aussi par rapport à mon contexte familial qui a fait que j'ai connu ça que tardivement, mais en tout cas à l'école j'ai jamais entendu parler de l'avortement dans les cours d'éducation sexuelle ou même entre amis on n'en parlait pas assez quoi, donc voilà quoi.
Et aujourd'hui du coup t'es ici, est-ce que tu fais partie d'un collectif ou d'une association en rapport avec le droit des femmes, le droit à l'avortement ou pas?
Non, je viens juste à titre individuel. Enfin, voilà.
Okay. Oui. Tu peux me lire ce qu'il y a écrit sur cette pancarte?
Du coup, j'ai écrit « L'illégalité ne nous empêchera pas d'avorter, c'est mettre la vie des femmes en danger ».
Du coup, tu peux me raconter un petit peu comment tu as décidé d'écrire ça ou qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire ça?
Parce que dans de nombreux pays, avorter, c'est illégal. Et sauf que l'État, ce que les puissances politiques n'ont pas compris, c'est que, illégal ou pas, les femmes avorteront, en fait. Et du coup, ça peut mener à des morts. Et c'est mettre leur vie en danger. Et du coup, ils devraient plutôt les accompagner vers cette démarche parce que c'est leur corps. Et ce que je trouve aberrant, c'est que les personnes qui votent ces voix-là, ce sont des hommes qui n'ont jamais eu à faire à ces soucis, en fait, et qui n'ont jamais eu à s'inquiéter. Et on peut aussi étendre à la contraception, qui fait que c'est une affaire de femmes, c'est l'homme qui va aussi féconder cette femme, justement, du coup.
Je sais pas, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous avez envie de dire, même à vos copines qui sont pas là, ou pour rejoindre cette lutte-là
Que pour celles qui sont pour l'avortement, qu'on porte leur voix pour elles, et aussi par rapport aux femmes croyantes, parce qu'il y en a beaucoup de femmes croyantes qui ne peuvent pas avorter à cause de du contexte familial, de leur dire qu'elles sont pas seules, et que je suis là aussi pour porter leur voix pour elles, parce qu'on n'en parle pas assez, je trouve, et voilà.
Qu'elles peuvent se retrouver isolées et aussi dans un système de culpabilité aussi peut-être. Après, pas que dans la religion, mais de manière générale sur les...
Elles peuvent se sentir hyper seules. Et je pense que c'est très important d'avoir quelqu'un qui ait vécu la même chose qu'elles pour se dire, non, je ne suis pas seule et je peux trouver de l'aide en fait. Ça, genre, vraiment leur dire que vous n'êtes pas seules et que si jamais vous avez besoin d'aide, on est là, voilà quoi.
Elles sont pas seules.
Voilà, elles sont pas seules.
Merci beaucoup.
Contre le patriarcat, je me lève et je me bats. Contre les violences sexistes, je résiste et je persiste. Contre le patriarcat, je me lève et je me bats. Contre les violences sexistes, je résiste et je persiste.
Et le magazine de Canal, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain à partir de midi et ce sera là plutôt pour le magazine culturel animé par notre camarade Marie-Madeleine. Donc voilà, à demain et en attendant, bonne journée.